première.
Oui.
Oui.
22h, 23h. Par où dire?
Pascal Tison.
Dis-moi. Par où dire?
Bien, bienvenue à la Verrière. Comme vous le savez, bonjour. Comme vous le savez, on travaille ici par cycle thématique. On a fait le cycle précédent qui s'appelait « Poésie balistique est terminée ». Il a duré 3 ans. On a d'ailleurs ici une publication qui reprend l'ensemble du site qui vient de sortir. Je vous invite à la prendre. Et on est ici sur un nouveau cycle de la Verrière qui s'appelle donc « Matters of Concern, matière à penser ». Et comme j'avais fait pour les cycles précédents, je démarre le cycle par une exposition collective qui est une sorte de... non pas bande-annonce, parce que ça serait plutôt réducteur, je dirais, mais c'est plutôt comme une expo, plutôt un statement inaugural du cycle.
Matière à penser. À la Verrière Hermès à Bruxelles jusqu'au 6 juillet. Avec Guillaume Desanges, Raymond Darcier, Isabelle Santis et Aline Ribière.
Donc ce cycle, Matters of Concern, matière à penser, il vient de plusieurs sources un petit peu, de plusieurs... Raymond,
Jeff Gaze, le Tour de France 1969 d'Eddie Merckx. Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 1er septembre. Avec Sylvie Boulanger et Francis Marie.
Voilà, Raymond Darcier qui est une des artistes de l'exposition. Aline aussi, mais viens, venez. Je vais juste présenter, juste après je vous laisse tranquille. Je vous présente comme ça, si les gens veulent vous poser des questions, ils savent que vous êtes là, voilà.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot. Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques. Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58?
Absolument.
Des places de Belgique.
Les Kaliski.
Mon œuvre.
Allez, on s'occupe.
Une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture,
authentique, me tente, me tente, me tente, me tente.
Le monde invisible.
Non, je dis cette exposition, elle est spéciale aussi parce que c'était aussi un défi un peu curatorial, au sens où on avait énormément de choses très diverses. Moi, je comprenais le lien entre ces choses, parce qu'évidemment, ils sont parfois très ténus. Et du coup, quand on a commencé, on s'est dit, mais comment on va faire tout rentrer dedans?
Qui on met à côté?
Et surtout, comment ça va éviter de faire un peu la brocante avec des objets disparates ou le cabinet de curiosité, quoi. C'est pas le but, c'est une expo thématique. Elle est forte, en tout cas, elle est en tout cas engagée. Et du coup, il fallait arriver à donner un peu de sens à ça.
Aline Ribière, vous voilà à la Verrière Hermès à Bruxelles, venant de Bordeaux. Pour quelle raison?
Eh bien voilà, j'ai été contactée par Guillaume Desanges, que je ne connaissais pas, et qui a appris l'existence de mon travail dans un livre qui est sorti de Fabienne Numeau, qui s'appelait « La création des femmes dans les années 70 à 80 ». Des sorcières comme les autres. Et c'est elle qui lui a parlé de moi à propos du thème de l'exposition.
Mais Guillaume Desanges, qu'est-ce qui rassemble cette diversité?
Cette question d'abord d'une relation avec un matériau naturel ou pas d'ailleurs, mais en tout cas c'est cette question qui m'a été inspirée aussi par une jeune génération d'artistes qui aujourd'hui revisite ou en tout cas se réapproprie aussi des techniques artisanales ou des savoir-faire comme la tapisserie, la marqueterie, etc. Et du coup de voir, mais créer des généalogies aussi de ces questionnements qui je crois ne sont pas des retours d'ailleurs, ni des choses nouvelles, mais qui n'ont jamais disparu, mais c'est simplement le monde de l'art qui les a pas regardés, qui les a moins regardés ces dernières années. Voilà, donc il y a ça, et puis cette question de l'attention particulière, d'une relation à son matériau aussi, qui est une relation, je dirais, non cynique, et une relation aussi engagée, que ce soit de manière thérapeutique, psychologique, politique, à ce matériau qu'on manipule dans un monde aujourd'hui où l'écologie est devenue si importante. L'idée, c'était de montrer non pas des manières de refuser de faire, mais d'autres manières de faire, qui sont simplement aussi, pas simplement, peut-être d'autres relations qu'on a avec les matériaux qu'on travaille. Voilà.
Près de nous, Aline Ribière écoute ce que vous dites et quand vous parlez, vous pensez à elle?
Oui, notamment.
Mais Aline Ribière, de quelle robe s'agit-il?
En fin de compte, depuis l'origine, celle-là date de 77, c'est la première que j'ai faite, et depuis l'origine, je fais des robes. Pour moi, il s'agit d'un travail qui parle du corps. C'est un travail qui peut aller de l'enveloppement vestimentaire et ressembler effectivement à des robes, jusqu'à la peau, et un travail qui représenterait une peau, si on pouvait enlever sa peau, qui représenterait ma peau. Enfin, c'est autour de moi que je travaille.
Et c'est vrai que moi, découvrant récemment le travail d'Aline, qui a un travail, on a montré une œuvre historique plutôt, enfin historique déjà un peu, mais en tout cas des années 70, une œuvre de vos débuts peut-être. Voilà, c'était de montrer aussi qu'il y avait des pratiques à un moment qui ont été peut-être moins vues dans l'histoire de l'art, simplement parce qu'elles étaient hybrides, qu'elles étaient beaucoup moins déterminées par un ordre.
À cette époque, je sortais des Beaux-Arts et des Beaux-Arts de Bordeaux, où j'avais appris beaucoup de choses sur l'art conceptuel, support surface, etc. Et dans ma tête, il était interdit de faire ce genre de choses. À l'époque, ce n'était pas considéré comme un langage d'expression artistique. C'était considéré comme un langage appliqué. On faisait ça soit pour le théâtre, soit pour la danse, soit pour la mode, soit pour s'habiller dans la vie quotidienne. Donc il y avait une finalité à ce travail-là, et moi je sentais que c'était pas ça que je cherchais. Donc il y avait d'un côté quelque chose d'interdit, puisque ça n'existait pas, mais d'autre côté, vu tous les mouvements qui existaient à cette époque en art contemporain, moi j'avais compris qu'en fin de compte le travail artistique était un travail de liberté. Donc un jour je me suis dit, bon bah, je vais faire l'essai de faire un vêtement, que ça serait autour de mon corps, et sans projet, ça servira pas pour le théâtre, ça servira pas pour la danse, ça servira pas pour la vie quotidienne, ça servira pas pour la mode. Pour rien, quoi. Gratuit.
Voilà, j'aime beaucoup l'idée du désordre. Désordre au sens, justement, ne pas essayer d'aller au-delà des ordres existants entre l'art, l'artisanat, la sculpture ou l'habillement ou le design ou l'objet votif, l'objet rituel ou l'objet politique ou militant. Avec cette question-là, il y a beaucoup de gens qui ont été écartés, notamment de l'art, hein, en pensant, ah ben non, trop ethnographique, trop politique, trop, etc. Et que je crois qu'aujourd'hui, la question, elle se pose plus, on doit se la poser différemment dans une logique écologique. Il n'y a plus de forme, il n'y a plus d'ordre dominant. En tout cas, il y a des formes et qui sont même elles souvent des formes hybrides ou transactionnelles ou des formes un peu glissantes comme ça, et que cette expo voudrait, je ne sais pas si elle y arrive, hein, mais elle voudrait non pas essayer de réparer les choses ou de réassembler, de remettre des choses dans le monde de l'art, mais elle voudrait être indifférente au statut des objets. C'est-à-dire ne plus penser cette question du cadre. Ce n'est même pas pour moi une provocation, c'est naturellement, j'essaye aussi maintenant de penser mes expositions comme des formes sans me soucier a priori du statut qu'elles ont. Par contre, la question, c'est qu'elles peuvent faire ou dire ensemble.
Il n'est pas question pour moi de couture au sens traditionnel. Donc j'ai commencé par le bas du vêtement, enfin j'avais quand même l'idée d'une robe, hein. Le bas du vêtement, j'ai fait des pièces qui étaient en volume, que j'ai multiplié, et en fin de compte, j'ai choisi que c'était toujours les mêmes formes, et ces pièces, je les ai fait monter du bas vers le haut en les cimentant par un galon pour les coudre, pour les associer, pour qu'elles tiennent. Et je me suis rendu compte que, en fin de compte, je faisais des pièces que je cimentais, c'est le terme qui m'était venu à l'esprit. Ça avait peut-être quelque chose à voir avec la maison.
Et le travail d'Aline, qui est un travail sculptural, mais qui est aussi un accessoire possible de performance, et aussi une forme de dire quelque chose en utilisant le corps, dans un objet qui est à la fois un objet esthétique, un objet politique et un objet rituel aussi, d'une certaine manière. Et en fait, finalement, voilà, c'est tout ça qui m'intéresse aussi.
Une toute petite maison, un tout petit lieu dans lequel j'habite. Mais je me suis dit, mais c'est terrible si ces grosses pièces comme ça m'envahissent. Je suis perdue, on ne me voit plus, je ne sais plus où je suis. Donc j'ai fait en vide, devant, la silhouette de mon corps, pour repérer où j'en étais dans cet espace. Et donc, voilà, elle a pris forme comme ça. Ce n'était pas une idée de forme que j'avais à l'origine. La forme s'est précisée au fur et à mesure du travail.
C'est aussi pour ça que j'ai voulu le montrer. Alors après, c'est des subtilités curatoriales qui sont mon problème. Mais par exemple, j'avais pas envie de le montrer au mur. Dès le début, j'avais pensé, et volontairement, parce que je voulais montrer que voilà, c'est un objet transactionnel. Ce n'est pas une toile qu'on met sur un mur. L'art a beaucoup... l'art occidental, hein, j'entends. Quand je dis art, je parle l'art occidental. Hein. L'art occidental a beaucoup, justement, fixé les ordres, mais aussi pour fixer les objets.
Ce travail, qui était effectivement un travail avec mes mains, manuel donc, il provoquait de la pensée. Et donc, c'est tout l'itinéraire que j'ai fait dans ce travail qui m'a particulièrement intéressée. Parce que le travail fini, bon, ben oui, mais en fin de compte, c'est l'expérience vécue qui nous enrichit aussi. Donc je me suis dit ça, il faut que je continue. C'est contre toute raison, puisque à l'époque, c'était ni valorisé, ni... Voilà. C'est comme ça qu'est démarré cette robe, 9 mois de travail.
L'art, c'était justement ce qu'on n'utilisait pas, ce qui n'avait pas de valeur d'usage. Or, aujourd'hui, on se rend compte, notamment avec la question de la restitution des œuvres d'art, qui est un sujet qui m'intéresse beaucoup, que, en fait, quand on restitue l'œuvre d'art, on lui change aussi son statut. C'est-à-dire, c'est ça peut-être la plus grande provocation et la plus grande subversion par rapport à un regard occidental sur la collection. C'est pas tant on rend, on perd la possession, ce qui est déjà quelque chose qui vient subvertir un aspect très capitaliste et d'un capital qu'on perd, mais c'est surtout, je crois, plus profondément, ça vient mettre en cause la manière dont nous on a de conserver les objets, parce que finalement les rendre, ça veut aussi parfois dire les remettre dans un régime dans lequel eux, ils ont une valeur d'usage. Ils n'ont plus cette valeur figée et purement, on va dire, contemplative, d'objet de contemplation.
Cette robe, elle est construite d'alvéoles.
Et ça, je trouve c'est intéressant. Et le travail d'Aline Rivière, par exemple, à sa manière, est déjà dans une position, je dirais, impure par rapport à ça qui m'intéresse. Impure au sens que ça n'est pas un pur objet à contempler. C'est justement un objet qui peut avoir plusieurs fonctions, simplement parce que peut-être la liberté que vous aviez en le créant, elle vous posiez pas cette question. Mais la question vous est renvoyée par le monde de l'art, qui vous dit, oui, mais quel est le statut de cet objet ?
En fin de compte, j'avais fait des formes comme ça, et c'est celle-là que j'ai choisie, que j'ai répétée. Il y a des alvéoles vides pour l'emplacement du corps visible. Les pièces qui dépassent en volume le corps, elles sont faites d'alvéoles gonflées.
Matière à penser. À la verrière Hermès à Bruxelles jusqu'au 6 juillet. C'est celle qu'on peut voir aujourd'hui à la verrière ?
Exactement, c'est celle qu'on voit aujourd'hui à la verrière.
Et pouvez-vous la décrire ?
Alors, elle est rouge, elle est faite de tissu, et il y a quand même aussi du plastique, et il y a ce qu'on appelle de la parsementerie, les galons. Ça peut faire partie de l'univers complètement de la couture, de toute façon elle est cousue. Elle est cousue à la main, pas parce que je donne une valeur particulière ou que je suis contre le couture machine, mais parce que entre ces pièces gonflées, c'était impossible de passer une machine à coudre. Donc j'ai tout cousu à la main. C'est rigolo parce que je suis à côté de Raymond Darcier. On a exposé toutes les deux ensemble. C'était un peu un jeu comme une petite fille, quoi. Je me faisais plaisir et je pense que je m'étais entourée de choses qui me rassuraient. Parce que j'avais appris dans mes cours qu'il fallait d'abord se lancer à faire des choses et puis ce qui nous paraissait le plus incompréhensible, difficile, etc., il fallait peut-être garder ça et attendre ce que ça fait. Et là, j'ai fait tout le contraire. Je me suis fait plaisir, j'ai pas été dure avec moi, tout ce qu'il fallait pas faire. Et puis je sais bien que quand j'ai montré ce travail qui est rouge en plus, je pense que c'était une couleur qui me stimulait. Et quand j'ai déjà montré, confronté ça avec mes amies plasticiennes, elles m'ont dit « Oh, c'est très joli ce que tu viens de faire. » Ce qui était une critique dure. Voilà. C'est rigolo parce que je suis à côté de Raymond Darcier. On a exposé toutes les deux ensemble. C'était en 80 ou à l'UNESCO. J'ai fréquenté aussi les mouvements féministes, tous ces mouvements aussi à l'époque étaient très... qui nous faisaient réfléchir, hein, qui nous faisaient... Et les féministes disaient, mais tu te rends compte de ce que tu as fait ? C'est inadmissible. Nous, les femmes, on a souffert de ces histoires de couture, de raccommodage, tout ce qui tourne autour de la maison. Et on était contraintes à rester là-dedans. Et toi, tu te mets là-dedans, c'est inadmissible. C'est... Et donc, je les écoutais, puis je me disais, oh là là, mais c'est vrai, elles ont raison. Qu'est-ce que je fais là?
Raymond Darcier, donc c'est l'artiste qui est là. Raymond, magnifique artiste qui a fait ses poupées ici, ses grandes effigies poupées, et qui a fait ce sac. On parlait d'objets hybrides et transitoires finalement, au statut incertain, ou même pas incertain d'ailleurs, c'est simplement au statut hybride, quoi, qui sont des objets à la fois militants, puisque c'était des objets qui servaient à dénoncer. Raymond est une artiste féministe, militante du premier temps du mouvement de libération des femmes, qui a été très militante pour la cause féministe et qui avait fait ces objets, ces statues, ces effigies qui étaient aussi utilisées dans les manifestations, avec lesquelles qu'elle empruntait, qu'elle montrait comme ça dans les manifestations pour dénoncer les conditions de la ménagère, ici par exemple, notamment dans les années 70. Et c'est aussi des œuvres d'art, puisque Raymond est une artiste autodidacte, mais une artiste. Elle a travaillé aussi ce côté artisanal. Et puis ce sont aussi des objets, non pas ethnographiques, mais enfin, qui racontent aussi dans la période, aussi une période de militance, avec des questionnements, des enjeux qui sont d'ailleurs toujours d'actualité aujourd'hui.
Et j'avais quand même des relations, j'étais pas seulement rejetée, mais celle qui m'acceptait, elle me faisait toujours un peu la morale. Elle me disait, mais tu sais, être artiste, c'est petit bourgeois, hein, tu tournes autour de toi là, qu'est-ce que ça veut dire? Et elle me disait, il faut aller dans les prisons, il faut aller à l'usine, il faut aller... Et puis quand je rencontrais des groupes de femmes artistes qui essayaient de faire valoir quand même leur travail artistique, elles se posaient plein de questions. Elles disaient, il ne faut pas signer notre travail. Il faut faire un travail collectif. Il faut que ce soit clair ce qu'on dit, que ce soit une parole de femme. Alors moi, ce n'était pas très clair, ce n'était pas évident. Et en fin de compte, ce que je disais, mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que je fais un travail autour de mon corps. C'est un travail corporel. Donc, j'étais ambivalente entre ce qu'on me disait, que je trouvais qui était juste aussi, et ce que j'avais envie de faire. J'ai posé des questions, entre autres à mes enseignants, en disant comment est-ce que ce travail il peut être pris pour un travail corporel. Parce que c'est bien, on disait, mais qu'est-ce que c'est de la sculpture? Est-ce que ça a valeur de peinture? Est-ce que ce ne serait pas des ouvrages de dames, comme le quilting et tout ça, des traditionnels? Et donc, ils m'ont dit... Mais si tu veux vraiment que ça passe pour un travail corporel et que le montrer, il faut que tu fasses faire un moulage de ton corps pour qu'on comprenne ça. Et donc, ils sont même proposés à me le faire. Je suis partie avec un moulage de mon corps à une exposition à l'UNESCO. Donc là, c'était très clair. J'avais même la tête, le visage, les cheveux. Et là, c'était très clair que... Ça avait quelque chose à voir. Et moi, je me disais, oui, je dis toujours que c'est le corps, parce que c'était à la mode, c'était ce qui se disait. Mais en fait, compte pour moi, ça englobait plus que ça. Ça englobait la personne aussi.
Matière à penser. À la Verrière Hermès à Bruxelles jusqu'au 6 juillet. Avec Guillaume Desanges, Raymond Darcier, Isabelle Santis et Aline Ribière.
Donc c'était juste que je me mette dedans, voilà. Mais comme j'ai continué à en faire, je me suis dit, c'est plus possible que je ne peux pas faire des moulages à chaque fois. Donc, je ne vais pas m'embarrasser de cette démultiplication de moulages. Donc, je me suis mis à faire la performance à ce moment-là. Et ça aussi, contre toute raison, parce que j'étais très timide. Et les questions que je me posais, ah ben oui, puisque j'étais nue sous la robe, tu ne peux pas porter un slip et un soutien-gorge, ce n'est pas possible. Parce que socialement, ça veut dire quelque chose. Et puis je me disais même, tu ne peux pas porter tes lunettes, parce que c'est pareil. Et donc, je me suis lancée là-dedans, j'allais dire à corps perdu.
Isabelle Santis, de l'association Fabricart aussi, qui est là. Alors je vais aller vite, parce qu'il y a beaucoup de sources qui ont nourri cette exposition. Vous allez voir, c'est une exposition extrêmement hybride, il y a des objets très différents.
J'ai commencé à faire des performances, et c'est là... Qu'entre autres, c'est dans les articles ou les critiques autour de ça, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui faisaient des performances entre les années 70 et 80. Et c'est là-dedans que Fabienne Dumont m'a retrouvée.
À partir d'une réflexion écologique, à savoir comment, en tant que commissaire d'exposition, je pouvais, moi, me saisir de la question écologique, qui est évidemment une question aujourd'hui, un enjeu essentiel partout, et qui a été d'ailleurs beaucoup traité dans l'art contemporain, des expositions autour des questions de l'anthropocène. D'ailleurs, Bruno Latour a donné son titre aussi à cette exposition, ces questions de l'anthropocène, ces questions de cette urgence écologique. Hein. Et puis, il y avait pour moi, mais pour tous, j'imagine, évidemment un paradoxe intéressant qui venait toucher au fondement même de l'art, qui était l'idée de dire le problème écologique, c'est qu'on crée, on produit beaucoup de choses et qu'on produisait encore des nouvelles formes pour dénoncer la production de formes. Et je trouvais qu'il y avait ce paradoxe qui était une sorte d'aporie finalement. Et donc j'avais réfléchi à cette question en me disant, mais est-ce qu'il n'y a pas plutôt une autre manière de penser cette question écologique, dans non pas arrêter de produire, parce que je crois que finalement, si on travaille dans l'art, c'est un peu difficile d'arrêter de produire, mais plutôt de regarder d'autres manières de produire peut-être les choses. Et ces manières de produire, ces autres manières de produire des objets, elles ont aussi à voir avec une question d'un engagement dans lequel on peut avoir dans la relation qu'on a avec les objets qu'on produit, peut-être de manière moins cynique, moins systématique. Et ça venait de cette question de détourner le regard. Je cite dans le texte d'introduction un peu par une petite boutade, mais je reprends cette phrase de Jacques Chirac, dont qu'on a un peu oublié, mais qui avait dit cette phrase célèbre dans une réunion à l'ONU sur la question climatique, un des sommets climatiques, je crois, qui avait dit « La maison brûle et nous regardons ailleurs » pour dénoncer l'idée que, malheureusement, on regardait. Et moi, je dis peut-être justement parce que la maison brûle, il est intéressant de regarder ailleurs, alors non pas pour oublier que la maison brûle, mais pour regarder d'autres manières peut-être qui existent, pas seulement d'ailleurs ailleurs, mais pas loin de là où on est, juste détourner un peu le regard pour montrer que finalement il y a toujours eu, peut-être ça ne s'est jamais arrêté, dans l'histoire de la production, dans l'art, des pratiques différentes qui simplement avaient des relations différentes, d'attention particulière à l'objet et à la matière.
À la Verrière Hermès à Bruxelles, matière à penser, jusqu'au 6 juillet.
On va voir que la question écologique, finalement, elle est à la fois partout, mais elle est nulle part traitée vraiment directement. Elle est plutôt traitée de biais. Et puis l'autre chose qui m'intéressait, c'était un questionnement à partir de cette question de l'écologie, mais penser une écologie de pratique. C'est-à-dire non pas dire comment je vais faire une exposition sur la question écologique, mais comment je vais travailler de manière écologique. Et pour moi, en tout cas, une des réponses à ça, des réponses à l'écologie de pratique, c'est aussi peut-être repenser une déhiérarchisation des formes et des ordres. C'est-à-dire qu'on a évidemment dans la question penser une exposition comme un écosystème, c'est pouvoir penser qu'il y a des formes qui ont des sphères d'intention différentes, qui viennent de sources différentes, mais qui finalement peuvent cohabiter ensemble, doivent cohabiter ensemble, ont des liens les unes avec les autres, sans forcément qu'il y en ait une qui prenne le dessus sur les autres ou qui domine les autres. Et moi qui viens de l'art, je connais aussi la manière dont l'art est un ordre hiérarchique, comme les autres d'ailleurs, mais un ordre hiérarchique assez fort où on a souvent exclu justement de l'art, des formes qui étaient trop ethnographiques, trop formelles, trop militantes, trop politiques, etc., dans les ordres, institutionnels et culturels de l'art, et qu'il était peut-être temps, en tout cas pour moi, de se poser cette question, de dire, il était temps aussi de regarder autrement d'autres pratiques et de tenter de rassembler des pratiques extrêmement diverses, même pas en essayant de réparer les choses, même pas en essayant de les rentrer dans un ordre existant, c'est pas aller dire, je vais regarder des pratiques artisanales ou militante ou de design en les ramenant dans le monde de l'art, mais c'était d'essayer, et je ne sais pas si j'y réussis, mais en tout cas d'essayer d'avoir une indifférence au statut des objets qu'on montre.
Guillaume Desanges.
Et puis enfin, une des troisièmes sources importantes, il y en a d'autres de réflexion, parce que c'est quand même une exposition, je dois le dire, de laquelle je réfléchis depuis 5 ans, et on a travaillé un peu plus précisément depuis 1 an pour le rassemblement des œuvres qui sont. En tout cas, c'est une réflexion assez longue, donc qui vient aussi nourrir par mon propre cheminement aussi dans le monde de l'art. Et puis, une des autres sources était aussi un rapport très actuel, très contemporain, puisque dans l'art contemporain et chez les jeunes artistes, je suis enseignant, moi, en école d'art, donc je vois aussi chez des jeunes artistes un intérêt vraiment particulier aux techniques traditionnelles, au savoir-faire artisanal, comme la céramique, qui est beaucoup revenue, mais aussi la couture, la tapisserie, la marqueterie, le travail sur bois, qui est revenu, et j'en parlais ce matin, ou je ne sais plus avec qui disait, le retour le retour à ces questions artisanales qu'on a noté beaucoup chez les très jeunes artistes. Et en fait, je disais, mais peut-être c'est pas un retour, c'est que ça n'a jamais arrêté d'être travaillé, mais que peut-être c'est un regard qui, à un moment, n'a pas regardé trop ces questions-là, et qu'aujourd'hui, des jeunes générations d'artistes le regardent plus et se réapproprient ce qui, en fait, n'avait jamais vraiment disparu.
Guillaume Desange, c'est pas la première fois qu'il me surprend avec de belles expositions. Je crois que il y a toujours des pièces qui sont très inédites, qui sont très inattendues. Donc il creuse vraiment le sujet.
Et donc l'exposition, elle est issue de tout ça. Elle essaie de mélanger, de faire des tensions et des liens entre les choses. Et puis chacun de ces objets a aussi ses propres histoires, donc en lien avec ses questionnements écologiques, ce rapport aux soins, au Caire, à cette question aussi qui m'intéresse, qui est cette question de repenser des dominations. Et je pense que, pour résumer, je dirais que la question écologique, elle est pour moi aujourd'hui passionnante comme une sorte d'alignement des enjeux, comme il y a un alignement des planètes, ou les questions féministes avec l'écoféminisme, les questions économiques de remise en cause des questionnements économiques, les questionnements aussi culturels, à savoir aller regarder dans d'autres cultures qui ont été moins dominantes par rapport à cette question de la nature, qui ont des pensées différentes, spirituelles. Toutes ces questions-là, en fait, à l'occasion de cette urgence écologique, arrivent à être dans le même alignement et qui nous permettent de repenser aussi nos manières de faire.
Raymond Berthier.
Donc, c'est mère et petite mère, avec les casseroles, la ratatouille et les relations hétérosexuelles avec les pères, les maris, les hommes, sac de nœuds au point mousse. Mais avec une forme, une force, parce que je n'ai pas simplement fait avec de la corde ou du fil, j'ai fait avec du laiton ou du fil de fer et j'ai reproduit des pailles de fer de 5 kg au point mousse pour écurer les casseroles. Paille de fer pour Carole, ça s'appelle.
Isabelle est là, ça c'est des objets qui nous ont été prêtés. Je remercie beaucoup Isabelle de nous avoir prêté ces objets. Peut-être tu peux nous en dire deux mots, et puis du patchwork aussi, voilà, de la fabricaire thérapie.
Au féminisme, puisque là par rapport à ce patchwork dénonce, c'est San Francisco qui vient à nous. Une pratique donc des activistes gays américains au tout début de l'épidémie du sida à San Francisco, reprendre la culture du patchwork américaine pour se relier, pour témoigner d'hommes, de femmes, d'enfants morts du sida, alors que c'était un moment où ces personnes ne pouvaient pas accéder aux temps et aux cérémonies de deuil par homophobie, par sérophobie. Et donc, se retrouver, se regrouper, puisque vous voyez en fait 8 panneaux, panneaux aussi qui font écho, et on a accepté de prêter cet objet qui n'est pas une œuvre d'art, qui est un objet de rituel de la lutte contre le sida, un objet qui en fait a aussi de valeur patrimoniale, puisque maintenant certains musées, on les confie à certains musées, puisque maintenant plus de 40 ans d'histoire de lutte, et voilà toute une histoire. C'est aussi la taille d'un patchwork, donc c'est en fait la taille d'un cercueil d'un soldat mort au Vietnam. Et tout à l'heure, Guillaume nous présentera une œuvre d'une artiste américaine qui a lutté en tant que sœur contre la guerre au Vietnam. Et donc toutes ces histoires de mobilisation sont bien sûr reliées. Et en fait, comme des gays français ont ramené ACT UP New York pour créer ACT UP Paris, certains gays qui vivaient, visitaient des amis aux États-Unis, en Californie, ont ramené cette histoire, ces rituels de patchwork des noms. Et donc en France, en Belgique, il y a eu des ateliers et il y a eu des déploiements. Et c'est vrai que là, on est dans un moment entre se retrouver, s'entraider. Et puis aussi, c'est un acte politique, puisque dans les années Reagan, très grande violence contre les mouvements sociaux, contre les homosexuels. Et bien, il y a eu des grands déploiements devant la Maison Blanche pour montrer en fait le visage de l'épidémie, c'est-à-dire des hommes, des femmes, quelle que soit l'orientation sexuelle, quel que soit leur âge, qui effectivement mouraient puisque des soins n'étaient pas organisés. Et donc effectivement déployer ces grands kilts par dizaines, centaines, milliers, c'était aussi une façon de protester de façon pacifiste, mais de protester contre cette violence institutionnelle. Et aujourd'hui, eh bien, il y a encore des déploiements, notamment au Solidays et puis peut-être lors du finissage. Et nous, on avait envie de découvrir comment, Guillaume, tu allais mettre en écho cette histoire, notre histoire, ces objets, avec effectivement d'autres œuvres et puis d'autres objets. Là, tu parlais de cette femme avec sa chorégraphie, sa danse. Et c'est vrai qu'à nous, aujourd'hui, eh bien, on continue en fait de créer d'autres objets, plus à des fins thérapeutiques. Moi, je suis devenue art-thérapeute, je suis toujours activiste de lutte contre le sida.
Francis Marie. Je suis éditeur, oui, tout à fait. Oui.
Et votre édition s'appelle ?
Elle s'appelle Keymaus. K-E-Y-M-E-U-S-E. Une clé et une souris.
Nous utilisons des objets de soins, des piluliers, des gants, des objets là véritablement pour panser, puisque c'est des bandes pour faire des pansements, des gélules aussi. Donc en fait, ce sont des personnes qui vont s'exprimer. Alors que, comme vous le savez, malheureusement encore aujourd'hui, il est très difficile de se dire et de dire sa séropositivité. Le VIH est vraiment booster d'inégalités, et notamment concernant les femmes. Donc là, vous voyez plusieurs objets qui ont été réalisés par des femmes qui taisent par stratégie aussi de protection leur sérophobie. Donc là, l'idée, enfin leur sérophobie, non, peut-être intégrée, mais aussi séropositivité. Et là, effectivement, c'est de détourner, utiliser des objets qui sont plutôt des objets parfois contraints par la maladie.
Ce que je voulais dire pour parler aussi d'un autre sujet qui m'a été inspiré par la présence de Fabrique Art Thérapie ici, c'est le fait que cette question de rapport d'usage, du rapport d'usage et de fonction de l'œuvre est très intéressante. Et c'est aussi une idée qui est sous-jacente à cette exposition parce qu'elle m'intéresse beaucoup dernièrement. C'est qu'on parle beaucoup de restitution des œuvres d'art aujourd'hui, notamment des œuvres d'Afrique, hein, notamment du continent africain, en tout cas ici en Europe, qui ont été soit spoliées, soit voilà, achetées dans des conditions. Voilà. Et on parle beaucoup de cette restitution. Et ce qui m'intéresse dans cette restitution, moi, n'est pas uniquement la question est-ce qu'il faut restituer ou pas. Cette question-là, pour moi, elle est évidente. Oui, il faut restituer, mais surtout la question intéressante, c'est comment la restitution change la nature de l'objet, puisqu'on les remet dans un régime qui n'est plus le régime occidental qu'on leur a assigné, nous, de dire des objets de contemplation qu'on vient mettre dans un musée, mais qui redeviennent des objets possiblement fonctionnels. Est-ce qu'il y a la plus grande subversion par rapport à notre logique occidentale de conservation, d'acquisition, de conservation et aussi de capitalisation, l'objet restant figé. Et ce qui m'a intéressé, c'est que dans les préconisations pour la restitution des objets, qui sont concernées aussi en Belgique avec le musée Tervuren, etc., qui vient de rouvrir, c'était qu'il y a aussi des préconisations qui disent que l'objet doit être rendu, mais pas rendu pour être mis dans un musée, forcément, mais qui doit être rendu pour pouvoir être réutilisé dans une valeur d'usage fonctionnelle de l'objet. Et c'est intéressant parce que ce que tu dis, on a discuté la première fois qu'on s'est vu, où je vous ai parlé de ça, que ça m'intéressait, parce que l'idée, c'est de dire qu'il y a aussi d'autres moyens que de conserver les objets. Il y a des moyens de les conserver, mais de manière transitoire, c'est-à-dire on peut venir les chercher, les utiliser, les ramener au musée où ils sont déposés et non pas définitivement conservés. Et c'est pour ça que je suis très heureux que ce patchwork, qui en effet n'est pas une œuvre d'art, donc on se dit, mais, et c'était vos questionnements que je comprends, de questions, ah oui, mais qu'est-ce que ça veut dire de les mettre dans un cadre, celui d'une exposition, alors que ce sont des objets qui ont aussi une valeur d'usage, c'est de que oui, bah vous allez venir le 21 juin, on va le sortir, on va aller dans le jardin, on va faire le rituel, montrer aussi que voilà, l'objet il n'est pas figé. Et je trouve ça, pour moi, en tant que commissaire d'expo travaillant dans le secteur institutionnel, je trouve que c'est très intéressant parce que ça remet en cause ce statut de l'objet, mais qui est par ailleurs, et ça on pourra en discuter, et je le défends, aussi un objet artistique, aussi un objet qu'on peut regarder, mais dans tout ce que j'aime dans les œuvres d'art, c'est par sa force plastique qui est aussi une force politique et que les deux sont enchevêtrés.
La ligne d'édition, c'est que l'artiste à qui je propose de travailler sur un projet d'édition, ça ne doit pas être une duplication d'un projet déjà existant. Donc ça doit être un projet spécifique qui conçoit pour cette édition. On travaille sur 7 exemplaires. C'est souvent de l'objet, donc c'est plutôt du multiple que du livre d'artiste, même si j'ai aussi publié quelques livres d'artistes, mais c'est surtout de l'objet, quoi.
Isabelle Santis, art-thérapeute, et je participe au projet de la Fabrique Art. En fait, on est une communauté de patients, d'artistes, de soignants, et où on crée en fait des objets, des projets artistiques. Ça peut être tous les patients. On travaille aussi avec des femmes qui ont été victimes de violences, avec des femmes qui ont eu un cancer du sein. Mais effectivement, on est plus issu de la lutte contre le sida. Et petit à petit, en fait, on souffre à d'autres situations de vie, de pathologies.
Et vous êtes basé à...
en France, on est un petit peu partout, surtout en fait dans le sud de la France, mais on se déplace.
Matière à penser. À la verrière Hermès à Bruxelles jusqu'au 6 juillet. Avec Guillaume Desanges, Raymond Darcier, Isabelle Santis et Aline Ribière. Jeff Gaes, le Tour de France 1969 d'Eddy Merckx. Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 1er septembre. Avec Sylvie Boulanger et Francis Marie.
François Curlet, j'ai édité plutôt des carnets de dessin que des objets multiples. Jeff Gaes, on a beaucoup travaillé ensemble avec Jeff Gaes. Anne-Véronique Janssen, Michel François. Un écrivain belge que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Bertels, qui est à la fois dessinateur et écrivain, qui est surtout écrivain pour moi. J'arriverai pas comme ça immédiatement à tous vous les citer, puis bon, c'est un peu délicat d'en citer certains et pas d'autres. Ce ne sont pas forcément des artistes conceptuels. Enfin, pas dans le sens où on entend les artistes conceptuels tels qu'ils sont apparus dans les années 60. C'est évidemment des artistes qui ont été marqués par ce mouvement qui a été quand même très, très important et dont certains assurent la continuité. Je pense à François Curlet, peut-être à Anne-Véronique Janssen. D'une certaine mesure, Jeff Gaes par certains côtés aussi. Moi, je pense qu'il n'est pas totalement, en dehors du champ conceptuel, à sa manière.
Qu'est-ce qui vous fait être présente au sein du Palais des Beaux-Arts à Bruxelles ?
Le plaisir d'avoir été invitée à présenter la dernière exposition qui a été produite avec cet artiste magnifique qui est Jeff Gaes.
Alors c'est Sylvie Boulanger, voilà, ça c'est le direct. Hein. Oui ? D'accord, eh ben, on va te rejoindre avec le journaliste, hein, tout de suite, ok. Ouais. Sylvie Boulanger est la directrice du CNAI, qui est un centre national qui est consacré à l'édition, entre autres, qui travaille beaucoup sur les expositions, qui a aussi une collection assez exceptionnelle de livres d'artistes et d'éphéméras, qui est en l'occurrence commissaire sur cette exposition avec moi.
50 ans. 50 ans se sont passés.
50 ans, oui. Donc première victoire d'Eddy Merckx au Tour de France, le 20 juillet 69. Donc c'est le 50e anniversaire de cette victoire. Et puis, comme vous le savez, c'est le départ du Tour de France de Bruxelles. Donc c'est un événement particulièrement important. Et le 20 juillet 1969, c'est aussi la mission Apollo 11 et les premiers pas de l'homme sur la Lune avec Neil Armstrong. Voilà. Donc il s'est écoulé 50 ans. Jeff Gaes a suivi le Tour de France en 69. Il a fait ses 67 photos que vous allez découvrir. Il les a ensuite archivées, comme il fait toujours.
Car j'ai la mémoire de cette nuit-là. Et vous aussi ?
Moi aussi, j'avais 9 ans. Et j'ai été à Thonon-les-Bains. On était tous dehors parce que ça se passait la nuit, dans une petite cour. Et j'ai vécu cet événement avec le voisin du dessous qui était magicien.
Donc ce qu'on a là, c'est les 67 photos qui ont été prises en 69 et qui n'ont été réactivées qu'en 2017. Puisqu'à la demande de Jeff Gaes, on a commencé à travailler sur cette exposition qui maintenant a fait, on va dire, le tour de France dans 6 espaces d'art contemporain. Et puis, on est évidemment très content que la dernière étape soit aussi la première étape du Tour de France, maintenant en 2019. Voilà.
Un vieux monsieur fantastique qui m'avait pris en sympathie, moi, la petite fille, et qui me racontait tous ces tours de magie. Et en fait, c'est lui qui a été le journaliste de cet événement. On regardait la Lune à ce moment-là.
L'exposition s'appelle Le Tour de France 1969 d'Eddy Merckx. Quand on regarde attentivement, sur les 67 photos, il n'y a que 4 photos d'Eddy Merckx, où on peut l'identifier précisément.
Francis Marie.
Quand on se déplace dans l'exposition, quand on regarde les 67 photos, on voit qu'en fait, ce qui intéresse surtout Jeff Gaze, c'est ce qui accompagne le Tour de France, c'est-à-dire la ferveur populaire, la caravane, les marques commerciales qui accompagnent le Tour de France, les endroits où les coureurs se réunissent dans les hôtels. Donc ce qui l'intéresse, c'est presque, je dirais, le contexte sociologique du Tour de France. Et puis la ferveur populaire qui accompagne le Tour de France. D'ailleurs, on voit ici, quand c'est l'arrivée au stade, donc c'est la victoire consacrée d'Eddy Merckx, il fait son tour d'honneur. Jeff Gaze est derrière tous ces gens, il les montre dans une concentration complète sur cette victoire d'Eddy Merckx, mais en fait on distingue bien entendu ces gens par derrière. Donc ce qui l'intéresse, c'est toujours d'être avec les personnes qui accompagnent cet événement.
Et les photos qu'on peut suivre ici, en fait, représentent aussi bien les fans que les chapeaux, que les hôtels, que les voitures, que les publicités. On voit assez peu Eddy Merckx. On le cherche un peu comme dans un jeu de piste, mais on le voit parfois en second plan et il est très peu représenté, en fait. Donc c'est encore une fois une manière pour cet artiste de s'émanciper de toutes les règles. Donc on a plutôt affaire à une œuvre, en fait. On baigne dans une œuvre plutôt qu'une exposition de photographie. Et puis Francis Marie a dû vous raconter le journal, qui est quand même une pièce centrale de non seulement de l'exposition, mais de tout le travail de Jeff Gaze, puisque en fait ce qui s'est produit, c'est le 20 juillet 1969, il n'y a pas eu que la victoire d'Eddy Merckx, il y a eu aussi la victoire universelle, mais américaine, du premier pas sur la Lune. Et là, Jeff s'est imaginé le dilemme des rédacteurs en chef des journaux belges qui se retrouvaient devant la possibilité sur la une soit d'annoncer la victoire universelle du premier pas sur la lune, soit d'annoncer une victoire qui les intéressait en fait beaucoup plus, en tout cas d'un point de vue de l'émotion personnelle, qui était la victoire du premier cycliste belge du Tour de France. Et donc il a acheté les journaux de l'époque qui finalement avait fait le choix de présenter les deux victoires sur la une, côte à côte. Et là, les rédacteurs-chefs ont rejoint, en fait, tout l'enjeu du travail de Jeff Gaze, qui est de créer une équivalence, de mettre au même niveau l'émotion personnelle et l'émotion professionnelle ou sociale ou universelle.
Il n'a pas de support en particulier, c'est-à-dire qu'il n'est ni peintre, ni sculpteur, ni vidéaste, ni photographe. Il est à la fois tout ça. C'est-à-dire qu'il utilise tous les médias possibles pour transmettre ce qu'il a à transmettre.
Francis Marie me parle, quant à vous, d'archives. De quoi s'agit-il ?
Un centre d'art qu'on a dédié dès le début à l'idée de publier, au sens étymologique, c'est-à-dire de rendre public. C'est-à-dire qu'on a dédié aux œuvres ou aux pratiques, mais aussi aux curateurs indépendants, aux éditeurs, aux collectionneurs indépendants, qui finalement valorisaient cette forme d'œuvre publiée, c'est-à-dire qui est pensée dès le départ par l'artiste pour être sous forme publiée. Ce n'est pas une reproduction, il n'y a pas un tableau d'abord ou une sculpture qui est ensuite photographiée, ça c'est un catalogue, c'est un commentaire sur l'œuvre. Ce sont vraiment des livres d'artistes, des publications d'artistes, des journaux d'artistes, donc qui font œuvre en fait.
Tout son œuvre est très ancrée dans son autobiographie. Alors d'une façon détournée, pas d'une façon revendiquée, d'une façon modeste, mais toute son œuvre prend appui, prend naissance, trouve ses sources dans son existence, dans son autobiographie. Par exemple, l'exposition sur le Tour de France 69, c'est évidemment une expérience qui l'a mené, lui, en tant qu'amateur de cyclisme, en tant qu'amateur aussi pour photographe, puisque quand on regarde les photos, ce ne sont pas des photos de grands reporters photographiques, ce sont des photos vraiment d'amateurs. Donc ce qui l'intéresse, c'est de retrouver cette identité d'un amateur qui se passionne, en l'occurrence donc pour un événement qui est le Tour de France et qui est Eddy Merckx.
Et dont vous aviez, puisqu'il vient de décéder malheureusement accidentellement, un des plus grands collectionneurs mondiaux
en Belgique qui s'appelait Guy Schrenen et qui a constitué des collections fondamentales en fait, d'éphéméras, on peut appeler ça des éphéméras, des livres, des disques, des stickers, des posters, des enregistrements sonores d'artistes, dont une partie est au musée de Brême, une autre à Porto, à la Fondation Serra Alves. Il a fait énormément d'expositions et il avait été aussi ami de Jeff Case.
Il est un des premiers artistes à utiliser le média photographique comme un élément conceptuel. C'est les débuts aussi de Jacques Charlier avec la photographie, c'est les débuts de Marcel Brotartz.
Vous l'avez connu en Anvers? Quand oui. Il avait son archive.
Alors, je n'ai pas connu, non, l'archive à Anvers. Je l'ai connu après, en fait. Sa femme était encore là, à Anvers, avec l'archive. Mais lui habitait déjà Paris.
Alors, c'est un archiviste. C'est un archiviste né. Il archive beaucoup. Il archive tout. À la fois tous les éléments qui constituent sa vie quotidienne. À la fois les événements auxquels il est confronté, que ce soit des événements culturels, des événements politiques aussi, quelqu'un qui était engagé politiquement, en tout cas qui soutenait un certain nombre de causes sociales. Encore une fois, quelqu'un qui a utilisé tous les supports, c'est-à-dire qu'il a aussi bien fait de la sculpture, de la peinture, du film, voilà. Sachant que aussi un des axes très importants, c'est la non-hiérarchie des travaux. C'est-à-dire que pour lui, une photocopie qui représente un événement, une correspondance, a autant de valeur qu'un tableau qu'il a mis beaucoup de temps à peindre. Donc il y a ce principe d'équivalence, ce principe de non-hiérarchie. Un des axes qui l'intéresse beaucoup, c'est la transmission. C'est-à-dire de ne pas rester un artiste enfermé dans un cercle étroit. Ce qui l'intéresse beaucoup, c'est de transmettre, de diffuser.
Matière à penser. À la Verrière Hermès à Bruxelles jusqu'au 6 juillet. Avec Guillaume Desanges, Raymond Darcier, Isabelle Santis et Aline Ribière. Jeff Gaze, le Tour de France 1969 d'Eddy Merckx. Au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles jusqu'au 1er septembre. Avec Sylvie Boulanger et Francis Marie.
Quadra Médicinal, son projet, c'est de définir dans des zones urbaines, dans des villes, un carré de 4 mètres carrés. Donc une surface, pardon, de 4 mètres carrés. À l'intérieur de cette surface, il demande à des ethnobotanistes de relever toutes les plantes sauvages, en fait, toutes les plantes qui poussent sans qu'on les ait plantées, et toutes les plantes qui ont une vertu médicinale. Ces plantes, il en fait le recensement, il en fait la description, il les fait sécher, il les met en sachet, et son idée, c'est que ces plantes-là vont servir à soigner les personnes qui sont dans la rue, donc les SDF. À la fois, il fait un travail esthétique, puisqu'il décrit les pièces, enfin, il décrit les plantes, il peut même les dessiner, il peut les photographier, bien entendu. Mais l'idée, c'est de recycler toute cette dimension esthétique, cette dimension artistique, d'en faire une utilité sociale, d'une certaine mesure, hein, et d'en faire une distribution qui est une utilité sociale.
Le Monde Invisible est une émission de Thierry Genicot.
Le fait qu'il ait été enseignant. Il a été enseignant pendant 20 ans. Et son enseignement, il s'était donné le titre de professeur d'esthétique positive. Voilà. Et donc, il travaille avec les enfants, avec les jeunes adolescents. Mais il travaille. Son premier travail, c'est, et là on revient aussi sur son côté engagement. Son premier travail, c'est de dessiner au sol une carte du monde. Et donc le matin, il prend la presse et il regarde, par exemple, un conflit en Éthiopie. Et donc il va avec ses élèves et il situe sur la carte qui est dessinée dans la cour de récréation, il situe l'Éthiopie. Et dans son esprit, évidemment, l'idée c'est, il habite Baleine, en Flandre, il enseigne à Baleine, et il veut montrer que à partir de là où on se trouve, on doit élargir. C'est-à-dire qu'on doit toujours aller chercher plus loin, avoir une connaissance plus profonde de son environnement. Et c'est effectivement comme ça qu'il va travailler pendant toute sa vie, puisqu'il va rester à Baleine. Ce qu'on appelle, moi j'appelle ça la boussole de son monde, c'est baleine. Hein. Même s'il a une antenne parabolique qui lui permet de capter beaucoup de chaînes, beaucoup d'informations. Donc il va travailler, par exemple, à Anvers, il a montré une exposition de ses archives où, pendant la guerre du Golfe, il avait tout archivé. Il avait archivé les séquences de bombardement, mais aussi il s'était renseigné sur ce qui avait permis cette guerre pour faire des progrès dans la technologie de destruction. Donc voilà, Baleine, pour lui, ça va être le lieu où il va se renseigner sur tout. Et c'est pas un militant, c'est pas quelqu'un qui va revendiquer, comme certains artistes aujourd'hui le font, un engagement politique. D'ailleurs, il ne répondra jamais à des interviews où il signera son engagement politique, mais c'est sous-jacent et c'est toujours présent.
Le Monde Invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.